et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Salut Clémence.
Ça commence mal.
On commence super bien. Allez. Salut Constance.
Salut Darina.
Comment ça va?
Très bien, un peu chaud là cette semaine caniculaire, mais tout va bien.
Ah, tu parles des 35 degrés, c'est rien ça.
Oh, on était plus autour des 40 hier, mais non, sinon ça va bien, super.
Bon, bah trop bien. En tout cas, ravie de te recevoir sur le podcast.
Moi aussi, merci beaucoup pour ton invite.
Alors, donc toi, Constance, tu as 7 ans d'expérience en tant qu'account manager. Tu es passée chez Criteo et chez Jubiwi avant de rejoindre il y a quelques mois la startup Too Good To Go en tant que key partner team lead. Donc bon, voilà, je sais, j'invite encore et encore une fois une startup food tech. Mais bon, en même temps, je ne pouvais pas faire l'impasse sur Too Good To Go. Puisque voilà, j'adore cette start-up qui, pour rappel, lutte contre le gaspillage alimentaire à travers une application sur laquelle, en fait, les commerçants peuvent proposer leurs invendus à petit prix aux particuliers au lieu que la nourriture finisse à la poubelle. Avant de commencer, Constance, peux-tu me dire quel est ton plat préféré? C'est pour mes stats perso.
Alors, il y a beaucoup de choses que j'aime, mais là, je dirais, en sortant de ce week-end de canicule, un bon saumon gravlax avec un bon plateau de fruits de mer et un petit verre de vin blanc d'entre-deux-mers en tant que bonne bordelaise, c'est ce qui me plairait le plus.
On s'y croit déjà là.
Exactement.
Trop bien. Et ben à présent, je te laisse sortir de l'anonymat.
Top, merci Arina. Du coup, je m'appelle Constance Figeroux, j'ai 30 ans, je suis d'origine bordelaise. J'ai aujourd'hui 7 ans d'expérience en marketing digital plus largement. J'ai fait une licence en communication à l'Institut catholique d'Angers, puis un master en école de commerce à Paris. Et à l'issue de ces 5 ans d'études, j'ai eu la chance de réaliser des stages divers et variés, aussi bien au service communication en milieu carcéral que chez TF1 ou que en agence de publicité chez Jung et Rubikheim. Et j'ai finalement terminé ces 5 ans d'études par un très beau stage chez Danone, au siège Boulevard Haussmann, au sein de la direction Médiamonde. Donc cette direction est en charge de piloter les budgets médias monde pour Danone, donc ce qui représente quand même plus d'un milliard d'euros. Et l'objectif, c'est de à la fois piloter les agences médias, les média managers Danone dans chacun des pays. Donc ça représente à peu près 35 pays. Et il se trouve que quand j'ai rejoint Danone, ils étaient en pleine transformation digitale. Et du coup, il fallait remettre en jeu les agences médias pour identifier l'acteur qui serait capable de répondre à l'ambition de Danone et les accompagner vers cette transition. Il se trouve qu'à l'issue de ce stage, j'ai eu la chance de rester un an de plus pour vraiment mettre en place et aller jusqu'au bout de cette transition. Et à l'issue de cet temps et demi chez Danone, j'ai eu la chance de partir en tant que consultante Danone chez Havas Media, donc une des agences qui avait été choisie par Danone pour les accompagner dans cette transition. Il se trouve qu'Havas Media était basée, l'entité que j'ai rejoint à Barcelone, donc le début de mon expatriation. J'ai passé 6 gros mois chez Havas pour mettre en place tous les process, les acteurs choisis, etc. Et au même moment, il se trouve qu'un géant de la tech, Criteo, venait d'ouvrir son hub européen à Barcelone et j'ai eu l'opportunité de les rejoindre comme account manager sur la France. Criteo, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, c'est le leader du retargeting. Donc, ces petites bannières qui nous suivent une fois qu'on a consulté un site e-commerce sans avoir acheté. On a cette petite bannière qui nous suit avec le produit qu'on a, le dernier produit consulté pour permettre aux gens de revenir sur le site et de finalement convertir. Donc en tant qu'account manager chez Criteo, on est en charge d'un portefeuille de clients. Au début, c'était pas forcément segmenté, c'était toute verticale confondue. Donc on agit vraiment en tant que consultant pour des acteurs du e-commerce en créant des campagnes de marketing performantes, en suivant des KPIs bien définis et en fournissant des conseils en matière de stratégie digitale voilà, sur l'ensemble des canaux et des devices concernés.
Ah, mais ça, on le sait, Constance, on a écouté l'épisode avec Corentin.
Voilà, Corentin que j'ai connu du coup chez Criteo, c'est un petit monde. Et du coup, j'ai passé presque 4 ans chez eux. Au début, donc, j'étais sur toutes les verticales. Et puis finalement, après, je me suis spécialisée sur le secteur du travel. Voilà, donc j'ai passé presque 4 très belles années chez Criteo. Et petit à petit, j'ai eu envie de me détacher de la publicité, de me recentrer vers un projet un peu plus humain, porteur de sens pour moi. Et je suis rentrée vivre à Paris et j'ai eu l'opportunité de rejoindre Jubiwi, qui a pour mission de rendre les équipes extraordinaires, donc une large mission. En tant que Key Account Manager, j'avais un rôle très multicasquette dans le sens où on était une petite start-up d'une dizaine de personnes. Et ma mission principale, c'était vraiment d'accompagner des grands groupes, essentiellement issus du CAC 40, à transformer des problématiques en expériences positives. Donc, c'est assez large. C'est, par exemple, comment assurer le meilleur onboarding à nos salariés, comment réduire le turnover, comment identifier les signaux négatifs. Et du coup, c'est vraiment être l'interlocuteur de référence auprès de Alliance, Mazar, Crédit du Nord, etc. Voilà, les accompagner dans l'utilisation de la solution, les conseiller, les former et répondre au mieux à leurs besoins et à leurs attentes. Et dans le coin de ma tête, il y avait toujours Too Good To Go qui résonnait depuis un petit moment. J'ai eu la chance, dans mon enfance et même plus tard, de m'engager dans des projets, notamment en Afrique, un continent qui m'est hyper cher. Et en fait, pour moi, le gaspillage alimentaire, aujourd'hui, c'est un combat qui est aussi bien éthique qu'environnemental ou qu'économique. Et on sait qu'il y a un tiers des aliments qui sont jetés ou perdus chaque année. Et qu'en parallèle, en fait, on sait qu'il y a au moins une personne sur 6 qui souffre de malnutrition dans le monde. Donc, quasiment 800 millions d'individus, ce qui est énorme. Et en fait, pour moi, je souhaitais vraiment, en fait, m'engager dans un projet qui soit en fait un engagement personnel. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai rejoint Too Good To Go il y a 3 mois en tant que team lead dans l'équipe Key Partner.
Bon, bah, trop, trop clair. Bah, bravo.
Merci, Darina.
Non, moi, j'aime bien ce parcours. Alors, c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a un peu les deux côtés. Tu vois, tu as le géant, enfin, les géants d'un côté avec Danone, Havas, Criteo. Et de l'autre côté, j'aime bien cette partie engagement avec Jubiwi et Too Good To Go. Et je me permets aussi de revenir 5 minutes sur ton expérience en communication au milieu carcéral. Ça aussi, ça fait partie de tes engagements.
Oui, exactement. J'ai des parents qui sont dans le milieu juridique depuis très longtemps. Et par ce biais-là, j'ai eu l'occasion de faire un stage en milieu carcéral. Et c'est vrai que c'est un secteur qui est méconnu, qui est souvent un peu controversé. Mais c'était hyper important pour moi de pouvoir comprendre aussi comment ça fonctionne, comment c'était aussi bien sur de la communication interne qu'externe, mais savoir justement qu'est-ce qui se passe un peu en interne et comment c'est retraduit en externe. Et du coup, c'était un stage hyper enrichissant, hyper fort émotionnellement, mais qui m'a énormément apporté. Et c'est vrai que par la suite, c'est aussi, voilà, je me suis engagée dans les prisons sur comment on peut aussi améliorer les conditions là-bas.
Et là, si je reviens sur Too Good To Go, donc tu disais que tu avais rejoint le pôle Key Partner. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous décrire au niveau macro la structure business de Too Good To Go? Et ensuite, nous expliquer en quoi consiste précisément ce pôle de Key Partner.
Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, la France s'impose vraiment comme le modèle dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, aussi bien dans le mindset que dans les initiatives et les résultats concrets. C'est un peu le laboratoire de Too Good To Go. Donc, on sait qu'on a une structure qui est bien en place. On a 4 pôles chez Too Good To Go. On a le pôle qu'on appelle People and Culture. C'est l'équipe qui s'assure que notre culture, elle rayonne vraiment au sein de l'équipe, qu'elle inspire les autres et qu'elle rayonne plus largement. On a le pôle marketing qui a pour mission vraiment de créer une marque qui soit forte et inspirante, que ce soit par sa personnalité, son contenu, son design, etc. Et après, on a 2 pôles qui vont particulièrement nous intéresser aujourd'hui. C'est le pôle sales. Donc, les sales, c'est comment on va inspirer et donner les moyens à tous les magasins de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, ça passe effectivement par l'acquisition de nouveaux magasins, leur donner le sentiment de faire partie d'un mouvement fort et inspirant. Et on a le pôle success auquel j'appartiens, qui a vraiment pour mission, pour le coup, de construire et de, de fournir une expérience cohérente et personnalisée à chacun de nos magasins afin de vraiment de pouvoir en créer des ambassadeurs qui luttent contre le gaspillage alimentaire au quotidien. Le pôle KeePartner, il appartient donc à l'équipe Success. Aujourd'hui, KeePartner, ça contient du coup tous les commerces qui sont rattachés à une chaîne alimentaire. Donc, ça va être à la fois de la GMS, de la boulangerie, de la restauration, mais aussi bien des hôtels, des cantines ou des fleuristes. Les missions, en fait, du KeePartner, c'est vraiment d'assurer le succès de nos magasins et d'optimiser que 100% des invendus en magasin soient sur l'application. Donc, c'est vraiment s'assurer que nos partenaires, ils restent connectés, qu'ils utilisent notre application et qu'ils mettent régulièrement des paniers en ligne. Mais c'est également s'assurer que nos partenaires assurent vraiment la meilleure expérience à nos utilisateurs. C'est-à-dire que on s'assure qu'ils aient été bien formés, bien éduqués, qu'ils forment correctement les paniers pour que l'utilisation soit la meilleure possible pour nos utilisateurs. Et enfin, on s'engage vraiment à créer des ambassadeurs. Donc, c'est comment on va réussir à échanger de manière hyper proactive avec nos partenaires pour les inspirer et vraiment en faire des ambassadeurs. En fait, aujourd'hui, on considère vraiment que nos contacts du côté chaîne, en fait, c'est un peu l'extension de notre équipe. Et c'est comment, en fait, on va réussir à leur diffuser le bon message qu'ils vont pouvoir eux-mêmes pouvoir faire rayonner au sein de leurs équipes, au sein de leurs entreprises pour vraiment inspirer plus largement toute une communauté. Pour s'assurer que ces missions soient largement remplies, on a à la fois des enjeux qui sont quantitatifs, donc ça va être s'assurer qu'on ait le maximum de magasins actifs, qu'on sauve le maximum de paniers. Comme je le disais, c'est qu'on s'assure également que l'intégralité des paniers qui soient mis en ligne soient achetés, qu'il y ait un minimum de churn, etc., mais également qualitatif, donc c'est qu'on s'assure que l'expérience des utilisateurs soit bonne, que le processus d'onboarding est correctement mené. Ça, c'est hyper important parce qu'effectivement, on s'assure qu'ils ont été bien formés sur l'application, qu'ils ont compris les enjeux, etc. On est sûr que derrière, l'expérience sera la meilleure possible. Donc, ça passe par de la formation, par de l'éducation et comment on va réussir à les faire générer les bons comportements après en magasin. Je dirais que le KeePartner, c'est vraiment, il a vraiment un enjeu d'éducation et surtout de sensibilisation qui est hyper fort. Aujourd'hui, par exemple, on se rend compte que il y a plus de 10% du gaspillage alimentaire qui est dû à cause d'une mauvaise compréhension des dettes de consommation. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 53% des Français qui font pas la distinction entre une DDM et une DLC. C'est comment nous, via nos partenaires, on va réussir justement à améliorer cette compréhension des dettes et à réduire, in fine, le gaspillage alimentaire.
Et alors, dans ce process d'amélioration continue et de sensibilisation et de formation des ambassadeurs, ça, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous décrire véritablement l'évolution de ton département entre le moment où tu es arrivé et là, les actions que tu es en train de mettre en place ?
Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'en 3 mois, là, on a un peu bousculé l'organisation de l'équipe KPM. Aujourd'hui, il y a beaucoup de particularités sur nos chaînes alimentaires qu'il faut prendre en compte. Donc, il y a à la fois la segmentation, il y a également le fait qu'il y a des chaînes qui sont intégrées, donc d'où la décision vient entièrement du siège. On a des chaînes qui sont uniquement franchisées, certaines qui sont hybrides, il y a à la fois des franchisées et des intégrées. Il y a un certain nombre de particularités. Il faut savoir que l'équipe qu'on appelle KeePartner, c'est une équipe récente, elle a tout juste 1 an. Comme je disais, chez Too Good To Go, on se structure petit à petit. Aujourd'hui, on a plus de 15 000 stores qui utilisent Too Good To Go en France et plus de 50 000 en Europe. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire du test and learn et de comprendre qu'est-ce qui fonctionne le mieux, où est-ce qu'il faut mettre le focus et comment on peut avoir l'équipe la plus performante possible. Et du coup, en partant de ce constat, on s'est rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, il fallait qu'on segmente différemment les équipes dans le sens où il faut qu'on comprenne mieux qui sont nos partenaires, comment ils fonctionnent, quelles sont leurs spécificités. Et du coup, dans cette optique-là, on a modifié du coup l'organisation de l'équipe. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est 5, bientôt 6 KeePartner. Et du coup, on a décidé d'organiser l'équipe par verticale, donc, c'est-à-dire d'avoir une personne qui est en charge de tout ce qui va être GMS et organique distribution, une personne qui va être sur la boulangerie, une personne qui va être sur toutes les chaînes de restauration, une autre qui va être sur tout ce qui est cantine, restauration collective et épicerie fine. On a également les fleuristes qui fonctionnent différemment. Donc vraiment, l'objectif, c'est de mieux cerner les attentes et les besoins de nos chaînes pour répondre mieux à leurs besoins.
Ok, ouais, très clair. Donc là, tu nous as vraiment décrit la segmentation par équipe et du coup par typologie de client. Mais j'imagine que tu vas avoir peut-être moins de fleuristes que de GMS. Enfin, du coup, comment l'équipe partners se répartissent les clients? Parce que j'imagine qu'ils doivent avoir un portefeuille un peu déséquilibré si c'est uniquement par vertical.
Alors effectivement, donc, par exemple, on va avoir une seule personne qui va être sur tout ce qui est GMS, organisme distribution, parce que c'est des grosses chaînes sur lesquelles effectivement il y a un travail vachement plus poussé en termes de s'assurer que on sait que par défaut que nos chaînes alimentaires, elles ont beaucoup plus d'invendus. Et du coup, c'est comment on s'assure qu'on va mieux former nos équipes et s'assurer que 100% des invendus sont sur l'application, alors que par exemple sur les boulangeries, il y aura peut-être un peu moins d'invendus. Mais il y a un besoin, il y a peut-être plus de chaînes et du coup, il y a un travail de fond aussi à mettre en place. Donc en fait, en fonction de la verticale, ce qu'on appelle un KPM, donc un Key Partner Manager, peut avoir une ou plusieurs verticales.
Ok, ouais, je comprends mieux.
En gros, ils ont entre 30 et 50 clients, enfin partenaires, en fonction du segment.
Ok. Et alors, si tu nous donnes un petit peu d'insight, qu'est-ce que vous donnez comme argument à vos partners pour qu'ils soient plus engagés et pour qu'ils proposent plus d'invendus sur le site Too2Go?
Alors, ça, c'est marrant parce que c'est assez paradoxal. Aujourd'hui, en fait, on s'assure, en fait, on ne cherche pas forcément à ce qu'ils mettent plus de paniers parce que derrière, ça pourrait dire qu'il y a une moins bonne gestion des invendus, enfin des stocks en tout cas, une moins bonne logistique. Mais vraiment, nous, ce qu'on s'assure, en fait, on a quand même, Too2Go a plus largement la mission de réduire le gaspillage de 50% d'ici 2025. Du coup, c'est vraiment qu'on s'assure qu'ils mettent 100% de leurs invendus. Donc parfois, il y a des produits qui pensent être exclus, des produits qu'on peut mettre sur l'application, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, c'est vraiment, on s'assure dès le début, en fonction de la typologie des clients, on leur crée ce qu'on appelle un welcome package où on va rappeler effectivement les produits éligibles au panier surprise Too2Go, comment ça fonctionne, comment mieux optimiser et sans casser la chaîne du froid, comment ils peuvent mettre à disposition les produits dans les paniers, etc. Et ce qui est hyper important, c'est que d'une chaîne à l'autre, en fait, c'est de vraiment cerner leur motivation sur pourquoi ils sont sur Too2Go. Est-ce que c'est pour des motivations financières? Est-ce que c'est parce qu'il y a une prise de conscience aussi bien sociétale qu'environnementale et du coup, ils ont envie de faire partie de ce mouvement de lutte contre le gaspillage alimentaire? Donc, c'est vraiment revenir aux prémices en fait, de leur présence sur l'application et de mieux communiquer et me communiquer dans le sens qu'ils attendent, on va dire, pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins.
Et comment est-ce que vous gérez la relation client au quotidien? En plus, vous faites face à des commerçants. Enfin, ils sont tout le temps sur le terrain et j'imagine qu'ils ne sont pas forcément tout le temps sur leur téléphone ou leur ordinateur. Du coup, quelle est la fréquence de vos points de contact et quels outils utilise l'équipe?
Aujourd'hui, on a aussi bien des comptes qu'on appelle intégrés, donc où le siège est décisionnaire et auquel cas, c'est vachement plus simple de pouvoir faire des points réguliers et rencontrer le siège régulièrement. Et après, c'est le siège qui va pousser auprès des magasins. Et d'autres chaînes où c'est beaucoup plus décentralisé et les magasins sont libres de s'engager avec Too2Go ou pas, et auquel cas la communication est bien différente. Aujourd'hui, ce qu'on s'assure, c'est de faire effectivement, au moins avec nos top 10 chaînes par verticale, de faire un point mensuel ou bimensuel ou même trimestriel, ça dépend un peu les enjeux. Mais du coup, vraiment de mieux connaître en tout cas nos partenaires. On a un vrai besoin de s'imprégner de leur organisation pour comprendre aussi comment ça fonctionne et pour, comme je disais, mais en faire de vrais ambassadeurs, on a vraiment besoin de comprendre qui est porteur du projet en interne et comment on va pouvoir l'intégrer aussi davantage dans nos communications, dans notre vision, etc., pour pouvoir s'assurer qu'ils transmettent les bons messages en interne. Donc, on a des points réguliers, que ce soit en physique ou par téléphone, avec nos sièges. Et sinon, on a aussi donc, tous les comptes qu'on appelle les coop, donc qui sont des magasins indépendants, où pour le coup, on va essayer de faire beaucoup plus de terrain pour comprendre sur place comment ça fonctionne. Et sinon, on a ce qu'on appelle un store journée, donc qui va permettre d'interagir avec nos partenaires à chaque stade, on va dire, du partenariat. Donc, de l'onboarding au churn, au reward. Donc, on a ce qu'on appelle des programmes. Et en fonction de là où ils en sont un peu dans le start de journée, ils ont passé, je ne sais pas, le million de paniers sauvés, ben on va avoir un programme de reward qui va être mis en place. Si on remarque malheureusement qu'il y a les ratings ne sont pas forcément bons, dans ce cas-là, on met en place ce qu'on appelle un programme de bad rating et on va pouvoir les accompagner sur comment effectivement améliorer leurs notes sur l'application. On a tout un tas de programmes et pour le coup, ça va être des communications beaucoup plus personnalisées via des emails ou même on a des campagnes de voicemail en fonction du sujet.
Ah ouais, je connaissais pas, tiens, ces programmes justement, reward, alerte churn et tout, c'est hyper bien de, entre guillemets, de les faire rentrer dans une case, mais au moins d'avoir un funnel personnalisé après pour gérer la relation.
Exactement. C'est hyper important, en fait. C'est là où on se rend compte qu'aujourd'hui, on adresse un grand nombre de partenaires et qu'on ne peut pas, effectivement, les adresser tous de la même façon. Et du coup, c'est comment, en fonction de leur comportement, aussi bien sur l'application ou de manière générale, on va pouvoir vraiment adapter et personnaliser la relation.
Ok, super. Écoute, maintenant, Constance, je te propose de passer à la partie retour d'expérience. Et on va commencer par rigoler un petit peu, j'espère. Peux-tu nous raconter une anecdote gratinée de ton cru ?
Alors une anecdote gratinée, c'était assez marrant. C'était justement, pour le coup, chez Danone. J'ai eu la chance de déjeuner à côté de Yannick Bolloré. Et du haut de mes, j'avais quoi, 21 ou 22 ans à l'époque. J'étais à la fois hyper impressionnée et puis à la fois en fait ça paraissait tellement normal, mais j'avoue que c'était pas le repas le plus détendu de ma vie, mais c'était un super bon moment et c'est vrai que c'est là où je me suis rendu compte a posteriori de la chance que j'avais eu de faire un stage dans cette un stage puis un CDI dans cette équipe et de pouvoir côtoyer des personnes aussi importantes et du coup c'était un beau moment, finalement, un très bon moment. Et puis, j'ai eu la chance après de le recroiser par les expériences futures. Et c'est vrai que c'était assez incroyable d'avoir pu déjeuner avec lui, pas en tête-à-tête, mais on était moins d'une dizaine de personnes. Donc, c'était assez sympa.
Alors, est-ce qu'il avait commandé un burger frites ?
Non. C'était à l'époque, c'était chez Danone et on avait des bons plateaux repas. Fourni par la boîte, mais non, pas de burger frites.
Ah. Oh. À contrario, quelle est la situation la plus compliquée que tu aies vécue dans ton métier d'account manager, puisque on sait que même s'il y a des super bons moments, des super bons côtés, les journées sont pas faciles tous les jours. Du coup, ça peut être intéressant que tu nous donnes ton retour d'expérience et aussi peut-être la leçon que tu en as tirée.
Ouais, bien sûr. Alors j'en ai plusieurs qui me viennent en tête, mais une qui était particulièrement compliquée, c'était pendant mon expérience chez Criteo. J'avais été invitée par un de mes top clients, qui était une grosse compagnie aérienne, à venir défendre la stratégie Criteo devant une bonne vingtaine de personnes du Comex. Et donc c'était à Glasgow, au mois de décembre, donc déjà ambiance sympa, il faisait bien froid, etc. Donc on arrivait de Barcelone avec mon manager et il se trouve que là c'était tous les pays monde qui se retrouvaient lors de ce séminaire à Glasgow. Ils avaient eu une soirée bien arrosée la veille, donc ils n'étaient pas vraiment réceptifs en fait à ma présentation. Et du coup, il y a eu quelques moments un peu compliqués pendant la présentation qui ne mettaient pas forcément confiance. Mais in fine, finalement, ça s'était quand même bien passé parce qu'on avait réussi à déployer le partenariat sur l'ensemble des pays.
Qu'est-ce qui s'était mal passé ?
Tout le monde n'avait pas le même niveau d'information. Il y avait eu, je pense, des manques de communication en interne, ce qui a conduit vers des discussions pas forcément hyper sympas au début, qui ne nous mettaient pas dans une situation confortable.
Donc, la leçon, on va dire, ça va être vraiment de remettre tout le monde au même niveau d'information, peut-être à l'écrit et en amont ouais. d'une présentation à l'oral.
Ouais, exactement. En fait, c'est s'assurer qu'en arrivant à la pièce, tout le monde a le même niveau d'information. Éclaircir l'agenda, en fait, s'assurer que d'être hyper explicite sur les sujets qui vont être abordés et vraiment de préparer. Pour moi, en fait, même si j'étais préparée, c'est s'assurer, en fait, savoir qui est qui parmi l'audience. Savoir quel est leur niveau d'information et vraiment bien préparer ce qu'on a à dire, anticiper les possibles questions voilà, ça va permettre d'assurer au maximum que la présentation se passe bien.
Ok, ouais, très clair. Est-ce que tu as un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne lorsque tu as démarré dans ce métier 7 ans auparavant ?
Je pense qu'il y a énormément de... Aujourd'hui, c'est très difficile. Je pense que tout le monde se pose des questions sur le sens qu'on a, sur le sens qu'on donne à notre job, sur ce qu'on y cherche, ce qu'on a envie de faire, etc. Et aujourd'hui, en fait, je suis convaincue que la motivation qu'on a, elle vient de ce qu'on apprend. Elle vient du sens que notre travail a pour nous. Et le fait que le chemin devant nous est clair et qu'on sait où est-ce qu'on veut aller, etc. Et qu'il est vraiment porteur de sens. Je dirais que c'est hyper important de se poser et de prendre le temps de savoir qu'est-ce qui nous motive dans la vie, qu'est-ce qu'on aime faire, comment on pense pouvoir s'épanouir et prendre du plaisir. Et à partir de là, je pense que c'est de prendre le temps aussi de choisir une entreprise qui nous fait vibrer, qui a un projet qui nous est hyper cher et auquel cas, on se lever tous les matins et aller bosser avec plaisir, je pense que ça n'a pas de prix.
Carrément. Et d'ailleurs, je pense que toi et moi, on a vu naître le métier d'account manager et on le voit évoluer aujourd'hui. Toi, quelle est la vision que tu vas en avoir ou comment est-ce que tu pourrais émettre une projection du métier d'account manager dans quelques années ?
Je pense qu'on va vers, ce n'est pas forcément péjoratif, mais vers une automatisation du métier d'account manager dans le sens où il y a un certain nombre de missions qui vont être automatisées. Que ce soit des reporting, que ce soit des communications, etc., pour mieux personnaliser, comme je le disais, mais la relation tout au long du partenariat. C'est vraiment, je pense que c'est hyper important d'avoir une... on sait que ça coûte aujourd'hui beaucoup moins cher de conserver un client que d'en acquérir un nouveau, donc c'est hyper important de se focaliser sur cette partie de relationnel, et c'est comment en fait on va mieux connaître, en fait, peut-être délaisser une partie reporting, analyse, etc., pour se concentrer sur toute la partie relationnelle et comment on va réussir à créer du lien, à mieux connaître nos clients pour mieux les accompagner et mieux personnaliser les échanges et les relations qu'on a avec eux. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été fait de façon peut-être un peu trop archaïque jusqu'à présent et qui mérite vraiment qu'on s'y attarde pour assurer et pérenniser nos partenariats.
D'autant plus, j'imagine, si on parle d'un sujet qui touche à ses valeurs personnelles comme là, le gaspillage alimentaire chez Too Good To Go.
Ouais, exactement. En fait, malheureusement, on est conscient qu'on aura toujours du gaspillage alimentaire. Mais qu'on peut vraiment agir dessus et réduire massivement. Mais c'est vraiment comment on arrive à embarquer et tout au long, en fait, tout au long de la relation, arriver vraiment à insuffler ce mouvement, à insuffler nos valeurs et là où on veut aller et à embarquer tous nos partenaires tout au long parce qu'on aurait malheureusement inévitablement toujours un peu.
Parce que même si, comme tu disais tout à l'heure, il y a des partenaires qui sont motivés par l'aspect financier, puisque si je ne me trompe pas, ils ont un malus lorsqu'ils jettent une grosse quantité de nourriture. Donc peut-être qu'ils vont rentrer par cette porte-là, mais qu'au fil de la relation et de la relation aussi qu'ils vont entretenir avec leur account manager chez Too Good To Go, ils vont prendre conscience au niveau valeur personnelle et ils vont continuer le partenariat sous un angle un peu plus large aussi.
C'est exactement ça, en fait. Leur motivation première, c'est souvent l'aspect financier, mais c'est comment, en fait, on va réussir à leur faire changer leur vision et leur dire qu'ils son partenaire Too Good To Go pour les bonnes raisons, comment on va réussir à leur faire comprendre que voilà, bah, en fait, la réduction, par exemple, du gaspillage alimentaire, c'est une des choses aujourd'hui les plus importantes qu'on peut faire pour inverser le changement climatique. Comment on peut, enfin voilà, comment on va les sensibiliser sur tous ces aspects-là pour s'assurer que, bah, in fine, ils sont, bien sûr, l'aspect financier constera toujours, mais comment, voilà, on peut leur ouvrir un peu l'esprit sur, au-delà de l'aspect financier, vous contribuez à réduire quelque chose qui est aujourd'hui hyper important.
Ok, trop cool. Bah, merci beaucoup, Constance, d'avoir joué le jeu. C'est trop sympa.
Avec plaisir.
Je termine avec ma question rituelle qui est: quel titre de livre, de film ou encore de chanson décrirait le mieux ton quotidien et pourquoi ?
Ok, alors ça va paraître peut-être un peu bateau, mais il y a une chanson qui m'est venue tout de suite en tête. C'est la chanson Respire de Mickey 3D. Je ne sais pas si tu t'en souviens.
Ouais, avec le clip en dessin animé là. Un peu.
Exactement. Donc c'est une chanson qui a au moins, je pense, 8-10 ans. Mais par exemple, quand il parle de au début du printemps, les oiseaux revenaient, je pense que c'est aujourd'hui hyper marquant de se dire bah, qu'on se rend compte que bah, non, au printemps, on est dans son jardin et que, en fait, on remarque plutôt la diminution massive d'abeilles ou d'oiseaux comparée aux années précédentes et qu'en fait, elle prend tout son sens, cette chanson. Je pense que vraiment le métier de Key Partner, c'est vraiment un vrai travail de sensibilisation, comme j'ai dit, mais c'est vraiment de faire changer les mentalités maintenant. Je pense qu'on a vraiment un besoin d'un changement brutal pour que notre planète elle perdure encore et encore. Là, on sort d'un week-end de canicule et en fait, on se rend compte qu'année après année, ces week-ends ils deviennent de plus en plus fréquents et qu'il faut vraiment agir maintenant et que demain, ça sera vraiment trop tard. J'ai l'impression que le confinement, ça a eu du bon sur un certain nombre d'aspects. Mais maintenant, vraiment, il faut que ça dure et qu'on s'assure que ça devienne qu'occasionnel. Et voilà, il faut vraiment faire changer les choses maintenant si on veut laisser un monde décent pour nos successeurs.
Et alors, je pense que ça peut faire peur, mais ceux qui connaissent cette chanson, pour info, la date de sortie, je viens de regarder, c'est 2003. Donc, ça ne nous rajeunit pas.
Ah non. Bon, je dis. Ouais. Mais on était toutes jeunes.
Oui, c'est ça, exactement. Écoute, merci encore, Constance. Très heureuse pour ma part d'avoir permis à Too Good To Go de prendre le micro. Donc, bonne continuation. Et je sais que je vais vous revoir dans toutes mes actus. Et je vous souhaite bon courage sur la lutte anti-gaspillage alimentaire.
Trop bien. Merci beaucoup, Darina.
Merci à bientôt. Pour ton invite.
À bientôt.
Il faut que tu respires. Ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rien.